On serait bienvenue dans cette émission. Alors que la RDC et le Rwanda ont entériné en décembre dernier un accord de paix sous l'égide des États-Unis, chose qui n'a pas mis fin aux hostilités sur les différentes lignes des fronts, Emmanuel Macron s'oppose à l'adoption des sanctions collectives contre Kigali et appelle les deux États à reprendre le dialogue. C'était ce mardi 12 mai lors d'une interview accordée notamment à France 24 et RFI en marge du sommet Forward Africa de Nairobi au Kenya. Le président français a défendu plutôt une approche en plusieurs axes. Dialogue entre les deux présidents, retrait de toutes les forces étrangères, reprise de la négociation politique avec la FM23 et remise de l'Union africaine au centre du processus. Sur les sanctions américaines contre Kigali, le président français a été explicite. Les pressions extérieures, si elles se multiplient, risquent de rendre le Rwanda moins coopératif. Mieux vaut, dit-il, revenir au principe du dialogue. Pour les chefs de l'État français, la politique de l'isolement s'avère contre-productive pour la résolution des conflits qui secouent la RDC. Ils préfèrent privilégier la vertu du dialogue respectueux avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame plutôt que les mesures punitives. Que vous inspire cette prise de position du président français relative au règlement du conflit opposant la RDC et le Rwanda? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Patrick Matata Makalamba. Il est professeur et député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo. Il est également cadre de l'UDPS, parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Patrick Matata Makalamba.
Bonsoir cher Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi et à mon co-débatteur ici présent.
Et aussi ici au studio, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, il est député national honoraire, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à votre débatteur, l'honorable
Patrick Matata. Et en ligne, Rigen Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Bonsoir, Rigen Miviri.
Bonsoir.
Bienvenue à tous, une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président français appelle à la reprise d'un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Selon Emmanuel Macron, qui s'exprimait ce mardi 12 mai au cours d'une interview accordée aux médias français à l'issue du sommet France-Afrique organisé à Nairobi au Kenya, les autres dirigeants de la région doivent être associés à ces dialogues pour une paix durable. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Et c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'Est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, c'est ma conviction, c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail qui remet toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois justes et que la France poursuit.
Patrick Matata Makalamba, professeur et député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous réagissez à cette prise de position du président français qui appelle à la reprise d'un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame?
Merci cher Guy Marté. Depuis ma bord, il convient de souligner que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme de paix. Dès son arrivée au pouvoir, il a voulu jeter le pont entre nos deux pays, le Rwanda et la RDC, des mécanismes de coopération culturelle, socio-économique, politique, diplomatique, ont été mises en place. Hélas, quelle n'a pas été la déception des Congolais et de leurs leaders de constater que le Rwanda n'a pas développé d'autres mécanismes de survie que de créer des guerres auxquelles on donne des images congolaises comme leaders, alors que ce sont des guerres de prédation, ce sont des guerres de déplacement des populations, d'implantation des populations qui ne sont pas congolaises, ainsi de suite. C'est documenté face à cette situation, différents rapports d'experts des Nations Unies, que au mois de février 2025, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773 avec des points très clairs. Cesser les faits immédiats et inconditionnels, retrait des troupes rwandaises de la RDC, fin de tout soutien au mouvement M23. Puisque il fallait mettre en œuvre cette résolution, tous les pays membres des Nations Unies, en ce compris les membres permanents comme la France, devraient insister sur la mise en œuvre de cette résolution. Donc c'est avec beaucoup d'étonnement que nous constatons que le président français, il est libre d'avoir son opinion, que nous ne partageons pas, d'ouvrir une porte déjà ouverte. Même lorsque la guerre a éclaté dans cette partie, on demandait à ce que la RDC puisse négocier avec le rebelle, mais le chef de l'État était clair. On ne va pas négocier avec des pantins, on va négocier avec le responsable. On a vu à Doha, c'était à tête président du Rwanda, président de la RDC, pour lancer le processus de paix. Comme il fallait une puissance diplomatique suffisante, les accords de Washington que M. Macron peine à citer sont venus en fait constituer cette garantie d'exécution de ce qui était déjà fait avant, puisque ces accords reprennent effectivement la résolution 2773. À ce jour, grâce aux accords de Washington, au leadership du président Trump, on sent que les lignes sont plus ou moins figées en faveur de la RDC. On note ça et là, les retraits des troupes rwandaises, les reculs de rebelles du M23. Et si on est arrivé à avoir ces avancées, c'est grâce aux sanctions. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas une antinomie entre, d'une part, le dialogue et les sanctions. Au contraire, les sanctions viennent renforcer l'évolution du dialogue, l'exécution des engagements pris.
Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il estime que les sanctions sont contre-productives?
Il est anormal que cela vienne d'un leader du monde européen. Puisque lorsque la Russie a agressé l'Ukraine, quelle a été la position de toute l'Europe? N'est-ce pas des sanctions culturelles, économiques, diplomatiques contre la Russie? Mais quand il s'agit de la RDC, c'est deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi la France, aujourd'hui, et beaucoup d'autres pays européens se retrouvent dans la périphérie des questions africaines. Puisque cette hypocrisie de venir dire aux Africains, nous vous aimons, nous sommes pour votre souveraineté, en même temps, lorsqu'il faut prendre des mesures fortes, on est hésitant, nous trouvons qu'il s'agit là d'une hypocrisie qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui.
Alors, par cette prise de position, Emmanuel Macron n'est-il pas en train démontrer les limites du processus de Washington?
Pas du tout. Il s'agit d'une confrontation du leadership international. Il n'arrive pas à se positionner dans les différents fronts. Le président Trump est entré tellement de leur voler de la vedette. Bon, voilà, qu'il trouve peut-être un espace d'expression qui est l'Afrique et l'Afrique centrale ici pour tenter de mettre à mal un processus qui se porte particulièrement très bien.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national honoraire. Vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Comment vous comprenez, n'est-ce pas, les propositions du président français sur les règlements de la crise entre la RDC et le Rwanda?
Les propos du président français Emmanuel Macron viennent augmenter le sentiment de découragement, de déception dans les chefs des habitants des territoires occupés après les propos tenus par Félix le 6 de ce mois, lorsque, à la question de savoir quand est-ce que Goma et Bukavu allaient être libérés, il a dit que seul Dieu savait, alors qu'au même moment, il ne veut pas écouter les serviteurs de Dieu, de laisser ces 5 ans pour lui dire qu'est-ce que Dieu veut. Mais pour revenir à ce que Macron dit,
j'estime... Vous avez dit que ça vient ajouter la déception?
Si.
C'est-à-dire?
Parce que Macron, premièrement, démontre que les Occidentaux ne sont pas prêts à sacrifier leurs intérêts protégés par le Rwanda au profit de la RDC. Comme mon co-débatteur l'a dit, le mal causé par le Rwanda à la RDC, le mal causé par l'occupation de nos territoires aux habitants de Bukavu, de Sangé, de Luvungi, aux habitants de Goma, il faut poser la question à toutes ces populations sous occupation pour vous dire jusqu'à quel degré elles sont étouffées et asphyxiées. Ce mal-là nécessitait des sanctions, ces populations-là exigent justice. Mais Macron dit, il n'est pas question d'adopter des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Et cela est très compréhensible parce que l'armée rwandaise protège les installations de la société Total au Mozambique, non seulement Total, mais ExxonMobil également. Mais même les sanctions américaines, ne nous voilons pas la face, nous devons être lucides pour savoir, à raison de ces sanctions-là, qu'est-ce que le Rwanda est prêt à lâcher, qu'est-ce que le Rwanda n'est pas prêt à lâcher. J'ai salué le fait que, sur appel de Donald Trump, les Rwanda et les M23 se retirent jusqu'à Kamanyola. Mais ne nous voilons pas la face. Kamanyola, c'est une agglomération congolaise. C'est la frontière avec le Rwanda. Et donc le M23 continue à recevoir matériel, tous les renforts à partir du Rwanda. Est-ce que les sanctions américaines obligent le Rwanda et le M23 à se retirer des places politiquement fortes comme Bukavu, comme Goma, comme Bunagana? Rien du tout. Trump demande au Rwanda à l'FCM23 de se retirer dans les limites frontalières du 4 décembre 2025, comme si l'M23 et le Rwanda ont désormais la légitimité de rester dans les frontières héritées de Washington le 4 décembre. Et ça, est-ce que nous allons applaudir pour dire que les sanctions apportent des solutions? Non, je pense que...
Et donc ces sanctions ont des limites comme...
Les sanctions ont manifestement des limites. Mais de l'autre côté, Macron dit quand même deux vérités fondamentales. La première, c'est que en une année de la signature de l'accord de Washington du 27 juin 2025, nous sommes aujourd'hui le 13 mai, sur tous les 4 axes évoqués par Macron, 3 axes étaient déjà sous contenu dans l'accord de Washington, la question du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Aujourd'hui, nous nous félicitons simplement que l'M23 se retire jusqu'à Sangé. Donc, cet axe-là n'est pas respecté. La question du dialogue avec l'M23, c'est là, le premier paragraphe de la section 2 de l'accord de Washington. Ce dialogue est au point mort, au point qu'il a été obligé d'être déplacé des doigts pour montrer parce que cette médiation rencontre une nouvelle guerre, aussi la guerre de l'Iran. C'est dire que ça patine. Troisième axe, la question FDLR. Aucune solution. Et quatrième axe, Macron a ajouté la lutte contre les forces terroristes qui avancent. Les ADF aujourd'hui se retrouvent dans 6 territoires. Bafouassène, dans la province de Moko Débateur, Ouacha, dans les Haut-Touélé, à plus de Lubero, de Mambasa, de Irumu, de Beni. Et toutes ces questions-là inquiètent aussi la sécurité de l'Ouganda et d'autres pays voisins. Et sur ce plan-là, donc, Macron n'a pas tort. Nous devons évaluer les limites du processus de Washington.
Voilà.
L'autre vérité, pour terminer, Guy,
allez-y,
c'est la crise de la médiation. On parle des 5 co-facilitateurs. Nous savons comment on en est arrivé là. Parce que Ruto ne voulait pas de Uhuru, qui est son prédécesseur, et assez Sadek ont voulu être présents. Chacun voulait défendre sa part. Dans la médiation, on a introduit la question des genders pour introduire l'éthiopienne et la centrafricaine. C'est un conflit d'intérêts. Personne ne se préoccupe du malheur de la RDC. Et Macron dit,
il faut d'abord résoudre la crise au sein de la médiation. Pourtant, si Félix avait été honnête pour accepter la médiation de nos évêques et pasteurs, nous ne serions pas en train d'être tournés à bourrique par tous ces médiateurs, comme l'a dit mon co-débatteur, Macron aussi à part là, il exprime la rivalité entre les Occidentaux, les Européens qui voient les États-Unis leur prendre la vedette en RDC, rivalité vis-à-vis des États-Unis. Bref, nous sommes la risée du monde. Toutes ces bonnes volontés qui semblent s'exprimer à notre intérêt sont là pour leurs propres intérêts, alors que, disais-je, les évêques et pasteurs avaient déjà proposé un plan des Congolais, qui aurait l'avantage de nous faire sortir rapidement de cette crise au lieu d'attendre que de nous laisser être l'otage des intérêts des puissances étrangères et des organisations sous-régionales.
Oui, quand le président Macron conseille de recourir au dialogue plutôt qu'à des sanctions, mais il ne dit pas ce qu'il faut faire quand les dialogues, n'est-ce pas, n'a pas permis de faire avancer les choses. Quelle est votre compréhension de cet aspect des choses?
Oui, Macron a aussi un sentiment de frustration. À maintes reprises, il a tenté d'avoir un succès diplomatique dans la sous-région des Grands Lacs, parvenir à réunir autour d'une table Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il espérait réussir ça à Nairobi, il espérait réussir ça à Paris lors de la conférence humanitaire. À maintes reprises, il a raté ses rendez-vous et malheureusement, bientôt c'est la fin de son mandat. Il est donc dans une tournée d'adieu avec cette frustration-là. Mais il sait lui-même que Kagame n'est pas de bonne foi pour prétendre qu'il faille attendre un dialogue de sa part. Et donc, qu'il propose un dialogue entre Kagame et Tshisekedi, c'est une initiative déjà avortée à maintes reprises, raison pour laquelle j'estime que nous devons, nous Congolais, les victimes directes de cette crise, nous devons prendre cette occasion où Macron prend le courage quand même de dire Washington a échoué. Même ce que moi je propose, dialogue Félix Kagame, cette approche a aussi échoué. Vous les Congolais, vous qui êtes les victimes, allez-vous continuer à croiser les bras ou plutôt allez-vous prendre votre destin à main? Pour moi, c'est la leçon principale que je tire de cette prise de position d'Emmanuel Macron.
Merci, Regen Miviri. Vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Quelle analyse vous faites de cette prise de position du président français Emmanuel Macron relative au règlement du conflit opposant la RDC et le Rwanda?
Oui, déjà, beaucoup a été dit. Je partage l'analyse de co-débatteurs sur la frustration de la France et aussi le fait que il me semble dans une certaine mesure que la France sans être mise un peu de côté dans les processus actuels. Ce qui m'amène à parler de tous les autres processus qui ont été en cours et qui semblaient même avoir des résultats, mais qui, à la fin de compte, n'ont pas eu le sentiment de des acteurs importants ou des acteurs principaux au point que ces processus-là n'ont pas avancé. Pour revenir sur la question de du processus africain, parce que je pense que c'est une autre chose qu'il a dit et qui me semble quand même importante à signaler ici, parce que au-delà de ce qui se passe à Doha, ce qui s'est passé à Washington, il y a un processus politique qui était envisagé et qui devait mettre en jeu des médiateurs africains, notamment le président Faure plus les autres anciens chefs de l'État. Et j'ai comme l'impression que ce processus-là, il est le plus en retard. Pourtant, ça pourrait être un processus qui peut aider les deux autres processus. Parce que si vous regardez bien le processus de Doha, on a comme l'impression qu'on a atteint le plafond de verre, en fait. Donc, tous les autres protocoles qui restent, il me semble qu'il est difficile aux personnes autour de la table d'avancer sur ces questions-là, parce que ce sont des questions qui ne concernent pas que les quelques personnes autour de la table. Ce sont des questions qui sont éminemment politiques et des questions qui nécessitent un consensus national. Et même quand un camp en particulier amène la question, il est difficile d'avoir de compromis, et si jamais il y a de compromis, il sera difficile de faire la mise en œuvre. Et ils le savent. Donc, d'où l'importance de repenser encore la nécessité de remettre dans le jeu les autres acteurs, et notamment les forces vives de la nation, société civile, l'opposition politique qui a été mise à l'écart de tous ces processus, et où on a vu cette crise comme étant seulement sécuritaire, pourtant elle est aussi politique.
Voilà, en prenant le dialogue comme unique moyen, n'est-ce pas, pour régler cette crise, est-ce que le président français est réaliste?
Bon, déjà, je ne pense pas qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, dire qu'il faut qu'on fasse le dialogue, c'est forcer une porte qui est déjà ouverte. Il y a des dialogues, mais est-ce que les dialogues sont inclusifs ou bien tous ces processus? C'est ce que je disais. Il y a des parties qui ne sont pas autour de la table. Il y a des questions qui concernent le pays entier, mais qui sont en train d'être négociées entre quelques individus. Et je pense que ces individus-là savent eux-mêmes aussi qu'il y a quand même un problème de légitimité de leur part. Que ce soit le gouvernement de Kinshasa, que ce soit ceux qui sont à Goma, ils savent par exemple qu'ils n'ont pas la légitimité de parler des questions de forme de l'État, des questions sur la possibilité d'avoir un État fédéral ou quoi que ce soit. Ça va au-delà de prérogatives et du gouvernement actuel et de rebelles. Donc ça, ce sont des questions qui nécessite un consensus national, et ce consensus-là n'est pas encore là. Moins encore du Rwanda. Le Rwanda n'a rien à faire dans une discussion, par exemple, sur la forme de l'État congolais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres questions qui échappent à ces différents processus. Pourtant, ces questions-là reviennent toujours dans les débats. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec la proposition du président français, c'est de ne pas considérer la question de la redevabilité. Donc, les sanctions, c'est aussi pour mettre de la pression, c'est aussi pour reconnaître qu'il y a des gens qui sont en train de violer, notamment le droit international, et qui ne peuvent pas juste s'en sortir comme ça. Je pense que il y a du bon sens à dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui puisse continuer, que le processus entre la RDC et le Rwanda puisse continuer, mais en même temps, on ne peut pas interdire à d'autres acteurs de recourir à des sanctions ou à des moyens de pression sur les acteurs qui deviennent des spoliés du processus de paix. Et je pense que là, cela pourrait même peut-être s'élargir à certains acteurs à Kinshasa, parce que je pense qu'il y a aussi dans une certaine mesure de blocage du côté de Kinshasa, par exemple sur le processus africain avec en incluant les acteurs politiques. c'est plutôt du côté de Kinshasa qui est à bloc. Donc peut-être qu'il y a besoin d'un peu de pression pour qu'on puisse enfin assister à cette inclusivité.
Voilà, si cette prise de position du président Macron peut arranger, n'est-ce pas, le Rwanda, Kinshasa a déjà réagi négativement par rapport à cette prise de position. Rigen Mviri, vous voyez les deux chefs d'État, après cette prise de position de Macron, les deux chefs d'État s'est retrouvés dans un cadre autre que celui de Washington?
Déjà, ils ont déjà signé. Je ne sais pas pourquoi ils vont encore se retrouver. On est plutôt à l'étape de la mise en œuvre. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Ils mettent de la pression sur les acteurs, c'est pour qu'ils puissent mettre en œuvre. Mais je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux sujets à discuter entre la RDC et le Rwanda. Par contre, c'est la mise en œuvre des engagements que les uns et les autres ont pris. Et si, par exemple, les deux chefs de l'État sont à l'origine des difficultés de mise en œuvre, alors là, peut-être qu'il est important de les engager individuellement. Mais voilà, mais je ne suis pas en train d'entrevoir dans les moyens termes une rencontre entre les deux, et je ne sais même pas si ça aiderait le processus.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et honorable Patrick Matata, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, Jules Maguené.
Jules Maguené depuis le Sud Kivu. Je suis d'accord avec le président français. La voie de dialogue doit être privilégiée. Certes, la souveraineté de notre pays est non négociable et doit être respectée. Mais dans une posture où le président de la République a choisi la diplomatie plutôt que les rapports de force, les sanctions collectives contre les Rwandais ne sont qu'une solution palliative. Pourquoi ne pas intégrer la théorie proposée par Vital Kamerhe avec son fameux triangle et l'aide des cyclones. Plusieurs rapports citent des pays de la sous-région comme étant en connivence avec les groupes armés qui déstabilisent notre pays. Je pense que le dialogue reste une panacée pour retrouver une paix durable. Si le pouvoir en place croit résoudre ces conflits uniquement grâce au soutien des États-Unis, nous risquons de nous retrouver dans une situation similaire dans les jours à venir. Résolvons ces conflits avec intelligence et pas par les forcing, même s'il y a un Trump derrière nous.
Professeur Patrick Matata Makalamba.
Merci beaucoup, cher Guy Maté. Je salue Jules Maguené depuis
Kinshasa.
Dis-suis-qui-vous,
mais il intervient depuis Kinshasa.
Ok, ouais. Merci.
Ah, vous le connaissez apparemment.
Je voulais d'abord souligner le fait que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des institutions totalement légitimes et dont la légalité ne saurait être remise en cause. En 2023, on est allé aux élections, on a un président massivement élu, un parlement établi, le gouvernement issu de l'Assemblée est là. Donc nous avons des institutions totalement légitimes et qui, en vertu de notre volonté d'avoir une démocratie représentative, gèrent la République. Alors, pour revenir à la préoccupation...
Alors, il dit ceci, hein, Jules Maguené dit, si le pouvoir en place croit résoudre ces conflits uniquement grâce au soutien des États-Unis, nous risquons de nous retrouver dans une situation similaire dans les jours à venir. Bon, c'est pas ce qu'il veut dire, voilà. Mais voilà.
Oui, en fait, nous saluons l'action, l'attention permanente des États-Unis sur la mise en œuvre des accords de Washington. Parce que ces accords, qui contiennent par ailleurs la résolution 2773 et beaucoup des dispositifs internationaux pour la résolution du conflit, viennent en fait mettre la pression suffisante. Parce qu'on connaît notre adversaire, les pays agresseurs. Ça fait 3 décennies qu'on a eu des dialogues entre Congolais. On a eu des dialogues avec le Rwanda, on a signé des protocoles, d'accord, ainsi de suite, des mémorandums, tout ça. Mais on est en face d'un régime qui n'a aucune bonne foi à appliquer les engagements librement souscrits, qui ne veut pas du tout se délester des avantages qu'il tire de la prédation dans la partie Est. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la RDC ne compte que sur les accords de Washington. C'est un pilier qu'on utilise. Mais il y a tous les autres processus. On a vu le président de la République aller en Ouganda, parler avec le président Museveni. Mais c'est autour de la stabilité, c'est autour de la paix, c'est autour de la sécurité, entre autres de la coopération économique aussi. C'est que, en même temps qu'on le fait, en même temps, notre armée est appuyée. Nous avons toute une loi de programmation militaire qui est en train d'être mise en œuvre. Chaque jour, les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense est en train de travailler avec l'état-major pour que l'armée puisse jouer son rôle. Mais un travail s'est fait à ce niveau-là. Et au niveau politique local, le chef de l'État a exprimé tout à fait sa disponibilité à écouter les uns et les autres, et il le fait. Lorsque l'honorable Fayoulou avait besoin de rencontrer les chefs de l'État, mais la porte lui a été ouverte, il l'a rencontré. Mais on ne va pas parler avec les frères, les compatriotes, qui choisissent les armes en soutien à un pays agresseur. Et dire on fait le dialogue alors qu'on sait que les pays agresseurs va réitérer, rééditer ce qu'il est en train de faire depuis bientôt 30 ans. Donc, nous pensons que tous les processus actuellement en cours, si on les respecte et ils sont en train d'être respectés, nous allons progressivement atteindre ce que nous voulons. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons de recouvrer l'intégrité du territoire, la souveraineté de la RDC, avoir la paix, la stabilité en vue du développement de notre pays.
Les pressions extérieures, si elles se multiplient, ça c'est marrant, si elles se multiplient, risquent de rendre le Rwanda moins coopératif. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Nous sommes en train de voir au contraire que grâce à ces pressions, le Rwanda est en train de reculer.
Merci. Merci. Honorable Jean-Baptiste Mouindo-Kasekwa, vous allez aussi réagir à la réflexion de notre auditeur qui nous appelle cette fois-ci de la ville de Kisangani dans la Tchopo. Il s'appelle plutôt Kisangani, Jackson Kisangani, mais il nous appelle depuis Kinshasa. On va l'écouter.
Bonsoir la radio de la paix, moi c'est Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville-province de Kinshasa. La position d'Emmanuel Macron est moqueuse envers les populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui vivent le massacre du déplacement et l'insécurité depuis des années. Pendant que les Congolais meurent, la France préfère parler des dialogues plutôt que des sanctions contre les Rwandais, malgré les nombreuses accusations sur son rôle dans le conflit. Cette posture ressemble à une diplomatie hypocrite qui protège les intérêts politiques au détriment de la souffrance des victimes. On ne peut pas construire la paix sans justice ni responsabilité claire.
Jean-Baptiste Mouindo, c'est quoi?
Oui, je suis de l'avis de Jackson Kisangani, qu'il s'agit d'une position moqueuse, d'une diplomatie hypocrite qui protège les intérêts au détriment de la vie des Congolais. Malheureusement, nous ne devons pas demander à Macron de faire le contraire de ce que nous sommes en train de faire. Une position moqueuse vis-à-vis des Congolais massacrés. Mais lorsque vous entendez de la bouche des dirigeants congolais de dire que tant que la guerre pourra continuer et aussi vont attirer profit pour que leur mandat soit prolongé, qu'il reste au pouvoir à durée indéterminée, n'est-ce pas une position moqueuse vis-à-vis de nos propres populations? Lorsque nous tenons ces positions-là, n'est-ce pas que nous voulons privilégier nos intérêts politiques au détriment de la souffrance de ces populations? Donc, personnellement, je ne voudrais pas me faire d'illusions vis-à-vis de la France. Lorsque la résolution 2673 a été adoptée, eh bien, certains diplomates nous ont dit clairement qu'il n'était pas question de se mettre à dos le Rwanda au détriment des services militaires que le Rwanda était en train de rendre à tous ces États-là. Et donc, la balle est dans notre propre camp, nous qui sommes les premières victimes. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, l'honorable Matata. Et j'entends ce discours. L'Union sacrée dit, il n'y a pas de crise politique en interne, nous avons notre légitimité, et si nous allons au dialogue, nous remettons
en cause les intérêts liés à notre légitimité, attendez la fin de notre légitimité jusqu'à 2028, et si vous avez la force en 2028, c'est alors que nous allons accepter de venir au dialogue. Mais Matata, quel devient le pays en 2028 si, avant la fin de votre mandat, nous n'aurons pas réunifié le territoire? Quelle est la capacité dont dispose l'armée congolaise pour empêcher à la RDC de retomber dans une situation semblable à celle d'avant la constitution sur laquelle vous êtes en train de cracher? Est-ce que nous ne risquons pas de précipiter notre pays dans une fragmentation comparable à celle de la période 98-2023? Au lieu de tenir cette posture-là, où les députés estiment que si le mandat se termine 2028, on n'a pas réunifié le territoire, il n'y a pas d'élection, donc nous prolongeons comme les députés provinciaux qui ont fait 12 ans, nous prolongeons comme les députés de Massissi et Teruchuru qui sont là depuis 2018 jusqu'à ce jour. Félix dit, s'il n'y a pas d'élection, je prolonge, je fais aussi 12 ans. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux, non seulement l'avenir du pays, mais les souffrances de ces populations sous occupation. Je parle avec, hier à Goma, les chauffeurs de taxi, de véhicules, ont refusé de faire sortir leurs camions. Parce que le Rwanda impose des taxes à l'excès. Toutes les recettes collectées, les francs congolais sont déversés au Rwanda et il faut attendre les francs congolais à partir du Rwanda. Est-ce que nous nous mettons à la place de ces Congolais qui ne savent plus supporter l'occupation pour que nous, à Kinshasa, nous nous disions tant que Bango, ils seront en train de mourir, nous nous, nous en profitons pour prolonger notre mandat? C'est cynique, c'est là que j'appelle toutes les forces politiques de l'opposition, toutes les forces de la société civile à se lever, à nous mobiliser pour montrer au monde que non seulement il y a une dimension sécuritaire, mais les belligérants veulent profiter de cette guerre pour préserver leurs intérêts et nous, nous devons à nous mobiliser pour mettre en échec ces agendas diaboliques.
Merci, Rigen Mivri. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle toujours de Kinshasa. Donc, tous aujourd'hui sont de Kinshasa. C'est Jephthé Eonga.
C'est Jephthé Eonga depuis la ville de Kinshasa. La déclaration du président français justifie clairement que la France soutienne Kigali dans la situation que traverse l'est de la RDC. Le président français et l'Union européenne dans son ensemble trouvent qu'il ne se retrouve pas aux accords conclus entre la RDC et les États-Unis, alors que l'Union européenne fait partie des partenaires historiques des États-Unis. La proposition de dialogue entre les deux chefs d'État donne l'Union africaine de conduire les dialogues, c'est déjà fait par le président angolais, sans des résultats escomptés. Le président français est en train de tenter pour que la France et l'Union européenne puissent inclure dans ces accords. Malheureusement, le train est en marche. Le président américain ne va pas reculer car le président rwandais avait signé cet accord avec conscience.
Vous avez compris, c'est plutôt Jephthé Eonga. Rigen Mivri, votre réaction?
Oui, je comprends le point de vue de l'auditeur, mais je pense que peut-être qu'on ne devrait pas faire un procès d'intention au Rwanda, plutôt à la France. Bien sûr, c'est clair que la position de la France, elle est aussi aiguisée par des intérêts nationaux, et notamment des politiques intérieures françaises, donc on peut le voir dans ce sens-là, mais je ne pense pas que le point de vue du président français soit totalement rejeté, étant donné qu'il rappelle en fait qu'il y a eu des processus qui ont commencé et qui ont eu une valeur ajoutée et que peut-être aussi en intégrant d'autres acteurs, on pourrait avoir encore un processus ou des processus qui sont plus cohérents et qui avancent mieux. Parce que comme on a dit, l'inclusivité dont on parle, c'est à l'interne, mais aussi c'est à l'externe. Et comme les députés l'ont rappelé, faire en sorte que les acteurs comme l'Ouganda soient aussi mis à contribution dans la recherche de la paix, c'est important. Faire en sorte que l'Union africaine contribue à ces processus, c'est toujours important. Donc, par exemple, pour Luanda, Luanda n'a pas échoué, c'est justement les acteurs qui ont refusé de faire la mise en œuvre de ce qu'ils avaient déjà accepté, et notamment le Rwanda qui finalement a refusé de signer l'accord à Luanda pendant que tout était presque achevé. Donc, on ne peut pas refuser à d'autres acteurs de réfléchir, mais aussi de projeter nos propres intérêts sur nous. C'est plutôt nous, en tant que pays, de voir où sont nos intérêts et dans quelle mesure on est cohérent avec différents processus. Parce que, par exemple, ici, on dit que non, on ne va pas parler avec des gens qui sont en connivence avec le Rwanda. Ben, non, mais déjà, le Congo parle avec le Rwanda et le Congo parle avec l'acteur qui est le plus proche du Rwanda et qui travaille clairement avec le Rwanda de manière assumée, qui est l'M23 AFC. Et donc, on ne peut pas parler avec des gens qui ont pris des armes contre leurs propriétaires et refuser de parler aux gens qui continuent à se situer dans le cadre républicain, notamment les gens de l'opposition politique. Donc, je pense que dans une certaine mesure, il y a aussi des responsabilités qui viennent du gouvernement congolais et ils doivent aussi mettre toutes les chances pour qu'on puisse arriver à cette paix-là. Parce que on peut bien être confortable à Kinshasa, mais il y a des gens qui sont sous les jougs de rebelles à Goma, à Kibumba, à Kamanyola, à Masisi, à Rutshuru. Et dans certains villages même du territoire de Lutero. Donc c'est très important que les pays puissent prendre cette question très au sérieux et qu'on ne puisse pas tout politiser au point que, voilà, on puisse dire que, ok, il n'y a pas d'élection tant que la guerre est là. Pourtant, on est censé être l'acteur qui doit mettre fin à cette paix. Parce que si on dit qu'on est légitime, alors on est légitime dans le cadre de la Constitution qui vous donne la responsabilité et l'obligation de protéger les citoyens et leurs biens.
Oui, Rigan Ouviri, vous avez suivi, n'est-ce pas, les divergences de vues entre les deux acteurs politiques, celui de l'opposition et celui de la majorité au pouvoir, sur certains aspects, n'est-ce pas, de cette crise. Et donc on peut dire que par rapport à cette divergence de vues, la proposition de Macron a sa place, n'est-ce pas?
Bon, la crise politique, elle est réelle. Donc, on peut bien vouloir fermer les yeux là-dessus, mais c'est une réalité. Donc, il y a une partie de la classe politique, une partie des compatriotes qui ne peuvent plus participer à la marche de leur pays, tout simplement parce qu'ils ont peur pour leur sécurité, parce qu'ils sont persécutés, ils peuvent pas être à Kinshasa, ils peuvent pas être au pays. Et c'est une réalité, on doit le dire clairement et on doit rassurer tout le monde et faire participer tout le monde à la solution. Je pense qu'un pays qui est en train de vivre ce que le Congo est en train de vivre ne peut pas se permettre d'être divisé. Et surtout du point de vue politique. Je pense que tous ceux-là qui veulent participer à la paix de manière honnête devaient être pris en compte et devaient être inclus dans ces différents processus. Parce que quand il faut s'engager l'État congolais, le gouvernement dit qu'il est le seul à avoir la légitimité. Mais en fait, en termes de coûts, ce n'est pas seulement le gouvernement ou bien le régime qui en paye le prix. C'est des civils, c'est autant les gens de l'opposition que de la majorité qui vivent dans des zones contrôlées par le rebelle, tous y payent le prix. Donc on devait tous participer à la solution.
Merci. Honorable Patrick Matata Makalamba, il y a un auditeur qui nous écrit depuis Kananga, Tridon Ardi Mpinda, qui dit la paix ne se limite pas au dialogue diplomatique ni aux signatures d'accords. Si le dialogue est important, il doit aussi être accompagné des vérités, des justices et d'actes concrets sur le terrain. La RDC a surtout besoin d'une paix réelle pour sa population, pas seulement des discours politiques, car discuter pendant que les violences continuent risque de fragiliser davantage la confiance du peuple envers les processus de paix.
Merci beaucoup. Je salue notre compatriote dont la réflexion est très pertinente. Voyez, nous nous situons dans un carrefour où il y a beaucoup de problèmes au monde et nous avons donc des éléments, des comparaisons. Il n'est pas tout simplement normal pour les acteurs qui ont soutenu l'Ukraine en sanctionnant la Russie, en appuyant l'armée ukrainienne, tant en renseignement de qualité qu'en équipement des hautes technologies. Lorsqu'il s'agit de la RDC, on voit que les acteurs sont en train effectivement de présenter une relative hypocrisie. Donc pour nous c'est très clair, il est question que tout ce que l'on peut faire aujourd'hui pour que la RDC puisse recouvrer totalement sa souveraineté, l'intégrité de son territoire, que les partenaires pertinents de la RDC soutiennent la RDC en sanctionnant le Rwanda qui ne respecte pas et en appuyant tous les autres dispositifs. Et c'est là que je suis en train de dire, ben, bon, la division politique, dans tous les pays il y a toujours des tendances et c'est pour cela qu'il y a une majorité, il y a une opposition, ça existe dans tous les pays. Je ne vois pas pourquoi on chercherait de tomber dans l'utopie de l'unanimité autour de toutes les questions. Non, on a eu des élections dans ces pays et on va organiser les élections dans ces pays. Mais ce n'est pas normal, on ne va pas imposer les élections là où l'État n'a pas de souveraineté. Je ne vois pas comment on peut le faire. Mais on travaille pour recouvrer cette souveraineté. Mais s'il s'avère qu'on arrive à l'échéance et qu'on ne sait pas le faire, bon, c'est à l'impossible, nul n'est tenu.
Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Oui. Donc, vous ne voyez pas les mérites, n'est-ce pas, de la proposition du président français Emmanuel Macron. Et à votre avis, que devrait faire le gouvernement congolais face à cette proposition du président français? Ça sera votre conclusion.
Moi, je pense que tout ce que le président Macron a voulu soulever, c'est la crise de leadership au niveau mondial. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, devra continuer sur l'élan en cours. Ça signifie non seulement d'alimenter suffisamment l'armée pour sa montée en puissance, mais de demeurer présent sur le front diplomatique tel qu'on est en train de le faire avec succès. Il faut la reconnaître les mérites de son Excellence Président Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un vrai démocrate, un grand diplomate qui est en train de jouer et on a les résultats. Ceux qui gagnent, on les garde et nous avançons. Voilà. Et les sanctions sont obtenues grâce à cette force diplomatique. Donc on maintient les sanctions contre le Rwanda et que les M23 se retirent, qu'on puisse construire notre pays.
Voilà. Jean-Baptiste Mouine, vous allez aussi conclure. Hein. Dans cette proposition du président français, il n'y a pas d'élément positif que le gouvernement congolais peut exploiter et capitaliser. C'est votre conclusion.
Un élément positif à capitaliser par le peuple congolais, à commencer par les populations directement affectées par la guerre, c'est que à une année de l'accord de Washington, ayons le courage de constater que sur les quatre axes proposés par Macron, trois axes sont déjà contenus dans l'accord de Washington et ce processus de Washington sur les trois axes est dans l'impasse. Deuxièmement, Macron souligne qu'il y a des rivalités entre les partenaires, entre la France et l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, de sorte que les sanctions américaines sous lesquelles l'Union sacrée veut nous faire espérer la libération de Bagira, de Bukavu, de Calais, de Bunagana et consorts, eh bien, ces sanctions-là ont leurs limites. Le Rwanda a des soutiens. Les États-Unis eux-mêmes ont fabriqué le Rwanda et soutiennent le Rwanda. Ne nous voilons pas la face.
nous allons assister à une guerre d'usure. Trump a poussé à ce qu'ils arrivent à Kamagnola. Je doute que demain Trump prenne son appel pour que l'M23 se retire jusqu'à Bagira, comme je le disais. Alors que, donc, en interne, troisième leçon à tirer, au lieu d'attendre les crises de médiation africaine, nous avons des médiateurs. L'Église catholique, SSS et autres ont montré leur capacité à la conférence nationale, au dialogue de 2016, ayant la lucidité de nous réunir autour de nos pères spirituels pour sortir nos compatriotes de ces souffrances le plus rapidement possible et surtout épargner notre pays d'un démembrement qui pointe à l'horizon si nous voulons nous contenter de maintenir ce statu quo jusqu'à fin 2028. Félix sera fait mandat, Trump sera fait mandat, Macron lui-même il est en train de partir, lui n'a pas la chance de changer la constitution ou de briguer le troisième mandat. Bref, les signes devant nous sont dangereux. J'appelle toutes les forces vives, à commencer par les victimes directes, à faire pression sur le pouvoir en place pour qu'on capitalise l'offre des évêques SCC par un dialogue interne, plutôt que de nous contenter, on a même sanctionné déjà un condamné à mort et on nous présente cela comme une victoire. Bref, qu'on cesse de tromper le peuple congolais, abordons les questions réelles.
Merci.
Bâtissons la cohésion nationale, parce que lorsque le pays se divise, lorsque le pays est en guerre, on ne se contente pas d'une crise.
Merci.
Opposition majorité, on renforce la cohésion en vue de faire un front commun, mais l'Union sacrée, par son projet de changement de constitution, divise davantage les Congolais.
Merci.
Et ça, ça montre que leur priorité n'est pas la réunification du pays, n'est pas la sécurité. Nous devons les sanctionner. Et Martin Fayulu l'a dit, si 2028 il n'y a pas élection, que Félix ne se trompe pas, nous n'allons pas les laisser profiter d'un crime, d'une crise qu'ils auront eux-mêmes entretenu pendant 5 ans.
Merci, on a compris le message. Regan Miviri, la prise de position d'Emmanuel Macron pourrait impacter à quel niveau le processus de paix dans ces pays? Ça sera votre conclusion.
L'important, ce n'est pas ce que dit Macron. L'important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les processus sont en train de donner des fruits sur le terrain? Est-ce que la mise en œuvre est réelle? La réponse est clairement non. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les accords qui sont déjà signés, que les acteurs puissent être mis devant leurs responsabilités pour qu'ils les exécutent. Et pour des questions qui restent encore à discuter, qu'il y ait plus d'inclusivité pour que ça soit plus facile de les exécuter, étant donné qu'il y aura beaucoup plus de processus et de consensus là-dessus.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Patrick Matata Makalamba, honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa et Regan Miviri, merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Et merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Dieudonné Nyangasa et Alain Ngoï qui était à la technique, et Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bon suite de programme sur Radio Kassou.